ils se sont confiés à nous durant la saison 1 du podcast. Tout l'été, ils vont nous envoyer des cartes postales de leur vie aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont heureux? Qu'est-ce que le podcast a changé pour eux? En résumé, alors, ça s'est bien passé? Bonjour Clara.
Bonjour.
Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, ton histoire est la suivante. Tu étais DRH, directrice des ressources humaines de l'hôpital de Pau, quand deux aides-soignantes, un matin, ont été retrouvées égorgées. Il est apparu très rapidement que c'était quelqu'un qui connaissait les lieux. Et donc, tu nous as raconté comment tu as géré de maintenir la vie dans un centre hospitalier avec un danger potentiel qui rôdait autour de tes personnels, de tes patients, et comment tu avais été à la croisée de tous les acteurs en interne, mais aussi du ministère, des pouvoirs publics, de la presse, bien sûr, et que ça avait, j'allais dire bizarrement, mais pas forcément bizarrement, donné une direction toute nouvelle à ta carrière et aussi à ta vie perso.
Oui.
C'est mon résumé ?
Oui, c'était un hôpital psychiatrique, hein. C'était il y a pas mal d'années, bientôt 20 ans maintenant. Et effectivement, j'étais toute jeune directrice d'hôpital et c'est une crise majeure qui a touché notre hôpital, notre communauté, qui a touché même le monde entier. Et tout d'un coup, on se retrouve au milieu de quelque chose d'historique un peu, hein. Et c'est une histoire très douloureuse pour les victimes, dont je ne fais pas partie. Et j'ai essayé de veiller, et c'est pas facile pour moi d'ailleurs de te reparler aujourd'hui, de ne pas alimenter le voyeurisme. Alors maintenant, ça fait longtemps, je pense qu'on peut se permettre d'en parler. J'ai aucune gloire, en fait, à avoir été là à ce moment-là. Mais de fait, je ne nie pas que ça a été absolument majeur dans ma construction professionnelle et personnelle, oui.
Est-ce que des gens ont découvert cette histoire ou que tu avais été une des actrices de cette histoire à la suite du podcast ?
Oui, parce que c'est pas forcément quelque chose que je porte en étendard, bien sûr, hein. Même si quand je parle de ma carrière lors d'entretiens de recrutement, par exemple, je ne peux pas ne pas en parler. Parce que je crois que j'ai compris des choses, en fait, à ce moment-là. Mais des personnes qui me connaissent moins ou qui ne me connaissent pas sous l'angle de l'expérience professionnelle ont découvert, oui. Et j'ai eu des petits mots. Ah, mais c'était vous qui étiez là. Et ben, moi et d'autres. Moi, je l'ai peut-être digéré différemment. Et en tout cas, je le dis. Oui, c'est quelque chose qui a été important.
Tu as déjà regretté d'avoir fait le podcast ?
Non, pas du tout. Non. Et puis déjà, je suis contente de l'avoir fait pour toi. Je suis contente de voir comment il a évolué. Et puis, je partage vraiment la philosophie du podcast sur le fait que des moments difficiles, et j'insiste, je n'ai pas été victime, alors que tu as beaucoup de tes invités ont été victimes dans leur chair de quelque chose. Moi, j'ai été touchée dans ma tête, dans mon cœur, d'avoir perdu deux de mes agents, parce que vraiment, j'ai les aime, quoi, mes agents. Et je l'ai expliqué à mes enfants qui étaient petits à l'époque, hein, que c'était évidemment très différent, mais que c'était un peu dans ma tête comme si je perdais des enfants. Et donc, j'ai été touchée, mais vraiment de façon minime par rapport aux vraies victimes. Mais peut-être que c'est ma façon de leur rendre hommage que de dire que ça a construit des choses très positives. Pour cette institution, je crois, que j'ai quittée maintenant il y a longtemps. Et en tout cas, pour moi, c'est sûr. Ça m'a construite et ça m'a fait grandir très vite, ou grandir, ou et changer, évoluer très vite, affirmer aussi, asserti, comme on dit, a aussi, comme dans, parfois, quand on traverse des moments difficiles et quand on écoute ton podcast, on l'entend bien, on fait le tri. Et j'ai fait le tri aussi, moi, à ce moment-là.
Oui, tu nous l'as raconté à l'époque.
J'ai fait le tri. C'est comme dans un voyage difficile avec des amis. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément, on partage pas forcément des choses qui nous permettent de vivre en vase clos ensemble. Bien là, j'ai fait le tri entre ceux qui tenaient la rampe et puis ceux qui, en fait, n'apportaient rien ou qui gênaient, quoi, j'ai envie de dire. Dans ces moments-là, on est on est focusé, enfin, on pense à l'objectif, quoi. On pense à s'en sortir, on pense à faire tenir cet hôpital, à faire tenir ses personnels, à tenir soi-même, et on évacue les
ceux qui n'aident pas.
Ceux qui n'aident pas. Au plan professionnel, et puis, bon, c'est un peu douloureux de le dire encore, mais aussi au plan personnel.
Tu veux redire, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, à quoi tu fais référence ?
À des parcours de vie conjugale qui prennent un tout autre chemin, et nous avons été d'ailleurs plusieurs dans cet hôpital, je crois,
ah oui,
plus que d'habitude, à changer de vie au plan conjugal, familial. En fait, ouais, ces moments difficiles, ça accélère plein de choses.
C'est des révélateurs.
C'est révélateur, ça réveille aussi peut-être, ça cogne en fait. Hein. Et des choses qui ne sont pas très solides, elles tombent.
Est-ce que tu travailles toujours dans le domaine de la santé ? Parce que tu parles avec tellement d'amour de la santé, de tes agents, oui, de cette institution.
Oui, j'adore la santé, j'adore toujours, c'est ma passion. Oui, j'ai une vraie sympathie au sens propre du terme pour les soignants, dans lesquels je m'inclus d'ailleurs. Ça, j'ai le sentiment que c'est, y a les soignants directs qui sont immensément importants, mais je pense aussi aux brancardiers, je pense aux lingères, je pense aux comptables, je pense à tous ces gens-là qui participent vraiment au fait que des hommes fassent que d'autres hommes vivent, survivent ou meurent d'ailleurs dans de bonnes conditions.
Dans de bonnes conditions dignes.
Oui, je trouve que pour moi un hôpital c'est une machine à soigner, une machine bien portante, c'est une machine où on est, c'est une machine qui s'arrête pas 24/24, c'est une fourmilière. Et je te l'avais raconté peut-être, j'ai souvenir il y a très longtemps dans un de mes premiers postes, je travaillais dans un CHU, on préparait les premiers plans d'une future réanimation néonatale qui allait sortir de terre des années plus tard. Et je me disais, c'est formidable, on travaille sur la réanimation de tout petit bébé dont les parents se connaissent pas encore.
J'adore.
Je trouvais ça très beau. En fait, nous, on serait là. Au moment où il y aurait un problème, nous, on serait là. Ça faisait des années qu'on aurait réfléchi à comment faire que notre réanimation néonatale soit efficace. Je trouve ça très beau, tu vois. J'en parle.
J'ai des frissons.
Ouais, mais moi aussi. Mais vraiment, en fait, c'est ça, c'est kiffant, quoi, de travailler dans la santé.
Quand j'ai préparé ces cartes postales de l'été, j'ai demandé aux gens de me suggérer des questions, des interrogations qu'ils avaient sur les différents invités. J'en ai eu beaucoup pour toi. Elles se recoupaient un peu. Il y en a une à laquelle je n'avais pas pensé, c'est est-ce que vous maintenez une relation ou avec la famille des défuntes ou avec tous ceux qui avaient travaillé avec elle à ce moment-là ? Est-ce qu'il subsiste quelque chose de collectif ?
Ah, c'est difficile comme question. Alors, j'ai quitté cet établissement il y a une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que conserver des relations avec les personnes qui m'ont entourée à ce moment-là, plus qu'avec les personnes qui m'ont entourée par la suite, ça serait aussi quelque chose d'un peu mortifère. Et voir voyeuriste, c'est le genre, nous on y était, quoi. J'ai pas envie de ça du tout. Et j'ai envie de... Enfin, il faut vraiment laisser la place à la vie, laisser la place aux successeurs qui n'ont justement pas traversé ce moment. Et j'ai compris qu'il fallait que je parte de cet établissement aussi pour permettre à la vie, quoi, de reprendre et de ne pas tout raccrocher à ce souvenir. En fait, le souvenir de ce drame, à un moment donné, il est délétère pour l'évolution de l'établissement et pour laisser vraiment la place à ceux qui l'ont pas traversé. Donc non, c'est pour ma part, c'est pas ce que tu as dit, mais il n'y a pas un club, ouais, de ceux qui ont traversé ce moment. Et puis beaucoup d'humilité. Nous n'avons rien fait de spécial que d'essayer de nous en sortir, alors que la foudre nous a tapé nous, mais aurait pu taper ailleurs.
Est-ce que cet événement a un impact aujourd'hui sur ta façon d'envisager les choses quand tu es dans un établissement ? Est-ce que tu as une vigilance particulière ?
Oui. Oui. Et en particulier sur les questions de santé mentale. Dans la santé mentale et dans la psychiatrie, la vraie qualité, la vraie sécurité, pardon, c'est la qualité des soins. On ne sécurise pas un hôpital psychiatrique avec des miradors, avec des barbelés, avec je ne sais quoi. Évidemment, j'exagère, mais en fait, la vraie sécurité, c'est la qualité. C'est-à-dire le fait que les personnels travaillent ensemble, partagent autour des patients, partagent autour des situations difficiles, se passent le relais, se fassent confiance. Et c'est ça, la sécurité en psychiatrie. Certainement pas qu'en psychiatrie d'ailleurs, certainement aussi en anesthésie réa et dans plein d'endroits. Mais en fait, la technique, les outils, c'est du soutien, mais la vraie sécurité, c'est le fait qu'on se tienne la main.
Est-ce que tu es heureuse ?
Ouais. Oui, vraiment, vraiment. J'ai une chance folle, en fait. J'ai une chance folle. Je suis payée pour faire ce que j'aime. C'est pas normal. Ça devrait être l'inverse. Tu devrais payer pour aller bosser. Oui, non, je suis. Et puis, j'ai une famille qui va très bien et j'ai la santé. Enfin, je vois ce que je pourrais avoir de plus.
Ben, un deuxième podcast.
Ouais. Merci. Ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé. Merci, Clara.
Merci, Sarah.